bon vendredi matin. J'espère que vous allez bien. Sylvain Sredon, de retour. Comment ça va?
Bon matin, JF. Tu vas bien, toi?
Ça va super bien. Je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai moins de poils autour des oreilles.
Là. Ouais, je te trouve super beau de même. Ça a l'air d'un rouge à lèvres de loin, là, mais c'est quand même très bien.
J'avais qu'il y avait un pot à briller fleurs. Sylvain, je ne sais pas si tu as suivi un peu, j'ai envie de juste faire un petit deux minutes là-dessus, mais les propriétaires au baseball majeur qui se sont entendus, est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te parle un peu ou tu es complètement indifférent à ça?
Évidemment, c'est une bonne nouvelle là, pour tout le baseball, mais en même temps, comment je dirais ça? Dans le contexte actuel, après 2 ans de pandémie, avec la guerre en Ukraine, avec d'avoir un paquet de millionnaires à l'entour de la table qui ne sont pas capables de s'entendre, c'est comme... Ça a un intérêt un peu mitigé, moi, t'avoue, là. Mais je suis content d'entendre une formule de série plus grande. Rappelle-toi la course des Blue Jays l'année dernière, comment ils sont fait évincer au dernier jour de la saison, je pense.
Ouais.
Si on peut avoir un peu plus d'équipes en séries éliminatoires, ça va devenir excitant. Enfin, le frappeur désigné dans l'année nationale. Qu'est-ce qu'il y a de plus plate dans un sport de spectacle, Jeff, de voir un lanceur s'élancer en jambon sur une balle puis de même pas courir jusqu'au premier but? Il n'y a pas de sport là, qui, au niveau de la performance qui peut permettre comme ça que ça soit carrément admis en guillemets. C'est comme, voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi qu'on ait le frappeur désigné là, dans les deux ligues.
Oui, puis il y a des lanceurs qui sont tellement payés cher dans la Ligue nationale que de se faire blesser en étant atteint, faisant pas nécessairement le rôle que tu es payé pour, là, c'est pas idéal. Fait que je pense que c'est une bonne décision. Le coach Antoine, est-ce qu'il aime l'interdiction des shifts qu'on appelle, le déplacement des joueurs en défensive?
Ben, plus ou moins. C'est sûr que les frappes, ça hypothéquait beaucoup les frappeurs gauchers dans le baseball. Au Canada, on a beaucoup de frappeurs gauchers. Donc, si jamais ça venait à nuire à certains Canadiens, c'est sûr que ça me faisait mal au cœur un petit peu. Mais tu sais, je pense que c'est quelque chose qui est dur à contrôler là, jusqu'à où qu'on va dans cette marge-là. C'est aux frappeurs de s'adapter aussi un peu là, à l'intérieur de tout ça, tu sais, mais...
C'est intéressant parce que là, ils ont décidé à partir de l'année prochaine on n'a pas le droit de dépasser le deuxième but, peu importe le côté. Donc, le deuxième but peut se tasser vers le premier but, mais il va y avoir un trou entre le joueur de deuxième but et le coussin. J'ai entendu à la radio hier par rapport à ça que, ouais, mais tu sais, pourquoi interdire les shifts alors que le frappeur gaucher a juste à frapper vers le troisième but? Mais c'est pas de même que ça marche. Là. Je veux dire, le lanceur lance des balles rapides à 95 à l'intérieur, puis tu sais, c'est impossible. Je pense que ça va amener une dimension. On va revenir à la base. Je pense qu'on va voir plus d'amortis. Je pense qu'on va voir plus de vols de but. Je pense que la Ligue nationale, le baseball majeur veut revenir à ça. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, mais la façon de le faire, d'interdire des déplacements défensifs, est peut-être weird un peu.
Qu'est-ce que je trouve encore plus weird, c'est qu'auparavant, quand il jouait du baseball, te dire comment c'est un sport quand même mon sport, je l'aime, là, puis il y a une mentalité de dinosaure alentour de ce sport-là. Là, t'sais. Quand tu penses que pendant des années, on jouait seulement les équipes de la Ligue nationale entre eux, qu'on affrontait les équipes de cette division 18 fois dans la saison, Jeff. Uh-huh. Donc, on avait des chiffres incroyables sur tout le monde, puis qu'on savait très bien ça, puis les joueurs bougeaient à peine en défensive.
Ouais,
donc, est-ce que c'est le patriarcat, la vieille mentalité du baseball qui faisait comme « Oh, ça se fait pas de faire ça, de bouger », alors qu'on avait ces chiffres-là, on les a depuis longtemps, puis longtemps. Là.
Absolument.
Fait que, soit qu'on est trop d'avant-garde maintenant, on était dans la préhistoire là, dans les années 80-90, là, en faisant pas ça. Là. C'est assez fascinant, là, parce que les chiffres, on en avait encore beaucoup plus, autant que présentement. Présentement, c'est sûr que là, c'est on est inondé de chiffres dans le baseball, puis c'est ça qui est le fun aussi en même temps, là, parce que les chiffres nous parlent beaucoup, puis ça, on m'en jasait tantôt comment les chiffres peuvent nous parler effectivement.
Oui, on s'en va vers là. J'ai rien qu'à glisser un mot parce que ça a été officiel hier, puis que là, ben, on va avoir une saison de 162 matchs, donc c'est une bonne nouvelle pour les fans de baseball. Ce matin, Sylvain, tu voulais nous parler des critères de sélection pour les équipes 2A, de la façon dont les entraîneurs dans les équipes 2A choisissent leurs joueurs. Je te laisse continuer sur ça parce que ça a l'air d'être quelque chose. Je pense que vous avez eu une réunion hier soir justement sur tout ça. Fait que je te laisse un peu me parler du sujet.
Oui, hier, on a eu effectivement une réunion avec tous les entraîneurs 15U 2A de la province ainsi que les organisations pour établir un peu comment on va de l'avant pour établir des critères 2A. Un, Jeff, je te remets en perspective un peu que dans notre réforme, on avait formé un comité de travail sur le 2A parce qu'on voulait qu'il fasse partie intégrante du développement de Baseball Québec pour nos joueurs. Et dans le comité de travail, ben, c'était d'établir une liste de critères de sélection pour les camps 2A à travers la province, qu'on ait une certaine façon d'uniformiser les retranchements des jeunes, puis qu'on ait quelque chose de bien clair. Puis là, je fais un parallèle avec d'autres sports. Tu sais, Jeff, quand on parle de sprint, de saut à la hauteur, ben, d'arriver puis de dire, OK, les sprinteurs, ben, les quatre premiers dans cette course-là ou les quatre meilleurs temps, ben, s'en vont au championnat canadien dans l'équipe du Québec représenter la province. C'est pas bien compliqué. Les quatre sont en hauteur les plus élevés. Tu sais, puis là, je caricature évidemment, là, mais c'est comme tu as des chiffres, c'est clair. Il y a personne qui va dire il a sauté à 7 pieds 1. Ouais, mais sa technique est pas vraiment belle. Il y a pas de ça, là. T'as ta puissance, puis c'est chiffré, c'est tout est beau. Dans les sports collectifs, le niveau de difficulté, en particulier, je pense à nos amis du soccer ou hockey, oui, il y a des variables qu'on voit très bien, qui sont capables d'être quantifiables, ouais. Mais il y a beaucoup de qualifiables. La capacité de se démarquer, d'être à la bonne place, d'avoir une lecture du jeu, c'est très dur pour un entraîneur d'arriver et de mettre une pondération qui est adéquate dans ces facteurs-là. Ça reste des éléments qualitatifs, puis qu'on va dire que bon, ben, je peux y mettre la lettre B+, ou je peux y mettre un 4 sur 4 dans le démarquage, etc. Donc, ça amène que c'est des morceaux très durs d'éléments à chiffrer pour les sports collectifs. Nous, pour le baseball, comme je mentionne, j'aime bien le mentionner, on est un faux sport collectif. On est un sport individuel qui a une finalité collective. Donc, on est plus capable d'emmener des chiffres nous parler, mais aussi des incitatifs qualificatifs. Dans le sens que on a comme, si je te parle de talent, ben le talent va référer aux qualités physiques du kid. Donc, on va parler de la vitesse de son lancer. On va parler de la vitesse de sa course sur un 40 verges. Puis là, on ne parle pas de technique de courir les buts, parce que peut-être la technique pour courir les buts était tellement pas efficace qu'on parle de vitesse. Mais bref, si on veut regarder le talent pur d'un individu, ça reste que la course sur 40 verges, comme au football américain, c'est très clair que les meilleurs scores représentent souvent les meilleurs athlètes ou ceux qui ont beaucoup de vitesse dans le corps. Puis évidemment, il y a la force de frappe, la distance que la balle va faire si on la frappe sur un tee ball, par exemple, dans nos tests, puis ou à quelle vélocité qu'elle va quitter justement le fameux tee ball ou le toss lancé, etc. Donc, ces mesures-là nous permettent d'avoir un profil du talent de notre athlète. Par contre, il y a d'autres éléments qui sont les skills, les habiletés. Les habiletés, ça peut être la coordination œil-main. Il y a des joueurs qui ne frappent pas dans le vide. Leur coordination est vraiment bonne pour tenir compte de ça. Alors, il y a des joueurs défensivement, des arrêts-courts, des receveurs qui ont des très bonnes mains, qui ont des bonnes approches sur la balle, qui ont peut-être un bras moyen, mais ils arrivent tellement bien sur la balle, ils la captent facilement, puis sont tellement fluides dans leur action que leur bras relativement moyen va être très efficace, puis on va avoir qu'est-ce qu'on veut. D'autres lanceurs qui n'ont pas une vélocité à tout casser, mais c'est prise, 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 prise. Donc, ils sont efficaces. Donc, dans nos critères de sélection de GF, on a deux choses à évaluer dans le fond. Le talent et l'efficacité du jeune, à savoir bon, qu'est-ce qu'on garde là-dedans puis où est-ce qu'on se situe dans ces deux paramètres-là.
Est-ce qu'on prend en considération le potentiel du joueur? Un joueur peut présentement être un peu moins bon, mais nous, on évalue que potentiellement, il devrait être dans l'équipe parce que justement, son potentiel, son plafond est plus élevé que certains joueurs.
Oui, excellent. Écoute, c'est un des challenges qu'on a à la BC en particulier, de prendre le joueur qui a une belle projection. On peut le voir dans, tu sais, si le joueur est dans la partie moyenne dans ses tests, si tu veux, au niveau de la frappe, lance, court, mais qui mesure 6 pieds 6, ben c'est sûr que des grandes catapultes, ben on sait qu'à un moment donné, quand va t'aligner cette catapulte-là, ben, il y a des chances que ça produise énormément de puissance, de vitesse. Donc, c'est sûr que c'est plus tentant de recruter un joueur qui est grand. Tu sais, puis je reviens avec des joueurs d'arrêts-courts quand l'ABC joue contre des équipes du baseball mineur, puis on voit des arrêts-courts de 6 pieds 3, 6 pieds 4, ils ont les jambes jusqu'au thorax à peu près. Donc, deux enjambées, JF, puis une balle qu'on frappe à travers le monticule, qui normalement est toujours un coup sûr, ben deux enjambées, puis c'est capté, c'est relayé au premier but, puis c'est comme bien facile. Fait que ça reste que la grandeur des leviers est un avantage certain dans notre sport. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir un Altuve de ce monde, on peut pas avoir tout ça, comme des Martin Saint-Louis, c'est sûr, mais ça reste que les grandeurs vont donner une projection, comme tu parlais, intéressante pour les sélections. Là.
Mais tu sais, même à part la grandeur, justement, parce que tu parlais d'un Altuve, j'ai l'impression que ça se peut qu'il y ait un jeune qui soit hyper rapide, qui ait des super bonnes mains, mais qui n'ait pas nécessairement la puissance encore d'un jeune de son âge, puis que, ben, gars, écoute, il frappe dans la balle, on va lui donner le temps, un an ou deux, peut-être, de mettre du muscle à sa charpente, mais on le veut dans l'équipe, justement, parce qu'il fait coup de contact, puis parce qu'il est rapide, puis parce qu'il a une bonne défensive.
Complètement. Écoute, c'est des critères à tenir compte. Comme je te disais, les habiletés physiques, oui. Puis aussi, qu'est-ce qui est un peu plus qualifiable de dire, bon, ben, écoute, il passe jamais dans le vide, il met la balle en jeu, tu sais. Celui qui court super vite, comme tu dis, si c'est un expert au niveau humain, donc il touche la balle fréquemment, on sait que même si ça s'en va pas, elle s'en va même au sol, il va être dangereux parce qu'il va falloir battre sa course tout le temps. Mais c'est le même joueur-là qui court hyper vite, s'il s'élance vraiment comme un fou bien, bien fort, mais qui touche pas la balle, techniquement, il est pas beau, sa vitesse va moins être charmante là, parce qu'on ne servira pas à grand-chose si on peut pas voler le premier but, effectivement. Là.
Exact.
Donc, ça devient un peu plus dur, là.
Est-ce qu'à ce niveau-là, on parle de 15U, 2A, est-ce que des critères comme du leadership, exemple un jeune qui va rassembler son équipe, un gars qui a du leader ou une jeune fille qui a du leader dans son équipe peut être sélectionné par rapport à ça? Parce que tu l'as dit, c'est une équipe, oui, de joueurs solo, individuels dans une équipe, mais ce critère-là dans une saison, dans un tournoi est quand même important d'avoir un leader et du leadership dans une équipe pour rassembler justement.
Dans une école aussi, Jeff.
Ouais, dans une école aussi.
écoute, avoir un bon leadership, c'est un atout. Il n'y a personne qui va te perdre là-dedans. Puis c'est un sujet qu'on a eu la semaine passée un peu, là, qui était drôle un peu, mais il ne faut pas avoir un faux leader non plus. Celui qui s'auto-proclame leader, puis qui on avait l'exemple du gars qui casse son bâton dans la chambre de hockey pour faire péper les autres, puis comme... on peut pas trop auto-proclamer un leader. Il faut qu'il s'installe comme de fait, mais ça reste que, comme Philippe Allou disait si bien, ben, il y a rien qui remplace le talent. T'sais. À un certain moment donné, ton leader, il faut qu'il soit bon. Si tu veux que ça soit un leader, il faut qu'il soit bon. Donc, ça, je te dirais que je suis pas sûr que ça doit être un critère à tenir compte. Comme on a souvent la discussion de dire, lui, c'est une bonne tête de baseball, il a une bonne compréhension des jeux, tout. Oui, c'est le fun, c'est un plus, mais moi, je comprends très bien la game, puis je peux pas aller frapper des majeurs parce que j'ai pas les mains assez vite pour arriver à temps avec la balle. Mais je comprends bien la game, Jeff. Là. Je sais où ce que la balle doit aller, puis je comprends tout ça, mais ça reste qu'à un moment donné, j'ai beau comprendre la game, mais si, tu sais, puis là, il faut distinguer, comprendre la partie, puis avoir de bonnes lectures de jeu. Mm-hmm. Tu sais, l'aréco qui est capable, dès que le frappeur arrive au bâton puis commence son élan, d'anticiper où est-ce que la balle va aller puisqu'il y a une lecture de jeu, on pourra pas assumer qu'il y a une compréhension de la partie, mais il y a une lecture de qu'est-ce qui s'en vient. Comme le lanceur qui voit un élan de frappeur puis qui se dit, OK, c'est sûr qu'il fait un pas vers le marbre. Donc, si je lance à l'intérieur, c'est sûr que je l'ai, c'est sûr qu'il pourra pas frapper. Je viens de voir son défaut. C'est des éléments tactiques hyper intéressants qui vont permettre à des joueurs de performer. Mais ça reste que si tu n'as pas assez d'habileté pour envoyer cette balle rapide-là à l'intérieur à une certaine vitesse, ben tu as beau avoir décelé le défaut, ben à un niveau supérieur, le frappeur va quand même s'en sortir et qui va te frapper. Donc, ça c'est un petit peu dans cet ordre-là que de mentionner que les éléments de compréhension de match, c'est des outils intéressants, mais je pense qu'on peut pas garder une candidature en disant on le garde parce qu'il comprend bien la game.
Oui, mais c'est pour ça que je posais la question, puis j'ai spécifié 15U, parce que dans les professionnels, on peut avoir ce genre de joueurs-là.
Parce qu'ils sont tous bons.
Ils sont tous bons, exactement, dans les rangs, c'est ça, exact. Puis, il y a des joueurs qui peuvent être des bench players ou des joueurs de surplus parce qu'ils ont une qualité, parce qu'ils ont un leadership, mais dans le 15U, où on est en mode développement, c'est pas nécessairement un critère. C'est pour ça que je posais la question.
Ben oui, puis je te dirais que on est en train de bâtir des individus, on est en train de bâtir des adolescents, c'est des enfants qui se cherchent une identité, des personnes qui sont en croissance. Donc, je trouve ça même lourd, Jeff, de leur donner l'obligation de développer du leadership. Tu sais, je pense de se prendre en main eux-mêmes. C'est déjà une belle initiative, c'est déjà un défi, tu sais, de dire qu'on commence à assumer un leadership pour les autres. Tu sais, mais ça n'empêche pas qu'il y a des belles personnalités puis il y a des personnes qui sont rassembleurs parce que c'est des bons individus puis c'est des bons kids, puis trompe-toi pas là, même comme coach, on s'attache à ces petites bébêtes là. On les aime, ces joueurs là qui sont le fun, qui sont dynamiques, puis qui sont allumés, puis qu'ils te posent des questions, puis tu dis OK, c'est cool, là, ils comprennent pourquoi, puis c'est sûr là, c'est bien le fun ça, mais ça reste que c'est peut-être pas nécessairement un critère de sélection.
Il y a un petit commentaire de Thomas Gagnon sur Facebook qui dit « Dans les showcases comme qu'il y a eu lundi pour l'ABC, ils ne tiennent pas compte du baseball IQ. » Est-ce que tu es d'accord avec ça? Baseball IQ, je suis comme, tu sais, le leadership, je suis d'accord qu'on ne tient pas compte. Le IQ, j'ai l'impression qu'il faut en tenir compte quand même.
Pas du tout.
Pas du tout, OK.
Non, pas du tout. À un niveau élevé des majeurs, dans un niveau supérieur, as-tu le talent pour accéder au niveau supérieur? Oui. Il n'y a aucun test écrit qui va se faire. Il n'y a aucun... que tu as un bras à 95 000 à l'heure du champ, tu cours en bas de telle vitesse, tu as le talent pour aller à un niveau supérieur, on va te prendre. Ouais, mais je comprends rien, on va te le montrer. Là. Tu vas jouer dans le baseball mineur des 140 parties, des 120 parties, il va arriver plein de situations. Tu vas pratiquer un camp interminable en Floride au printemps, tu vas l'apprendre. Il n'y a pas de... Puis je répète encore, je veux être sûr qu'on se comprenne bien. Je dis pas que c'est pas important qu'un joueur comprenne bien le match de baseball. Là. Puis ça, je pense qu'on va avoir une chronique rien que là-dessus sur le fameux baseball IQ, parce que c'est tellement une phrase que j'entends d'un paquet de personnes, des entraîneurs qui disent « Moi, je t'assommé comment les joueurs comprennent pas la game. Je t'assommé comment les gars ont pas d'IQ. » OK, mais qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Tu sais, de dire, ah, Jeff, lui, il est pas bon. Ça, c'est facile, ça. Ma mère est capable de faire cet exercice-là, de dire, lui, il est pas bon. Mais comment qu'on fait pour corriger ça? Comment qu'on fait pour adresser la situation? Donc, je te dirais, dans tout le niveau supérieur, là, le baseball IQ, là, c'est pas du tout prisé. Ce qu'on va faire, par contre, Jeff, avec des choix de première ronde puis deuxième ronde, entre ceux qui flirtent avec les très, très gros montants, les équipes professionnelles vont faire un questionnaire un peu aux athlètes pour voir un peu leur personnalité, voir à quel type d'individu qui s'adresse. T'sais, on parle de millions de bonus de signature, donc de millions. Puis si on se trompe, ben c'est un choix de première ronde qu'on a perdu. Là, on se comprend. Là, fait que les équipes sont prudentes à dire OK, lui, on va faire un test de personnalité, si je peux appeler un peu de même. Là. Ah, il y a des tests de vision, il y a un paquet de profils médicaux et psychologiques qui sont faits à des choix de première ronde. Mais jamais, une équipe va dire on a repêché tel joueur parce qu'il y a un bon baseball IQ. Ils tiennent même pas compte de ça, même pas proche.
Puis de toute façon, tu sais, rendu là, on parle professionnel, là, mais rendu dans le pro, rendu à un certain niveau professionnel, sans nécessairement être dans les ligues majeures, c'est souvent les entraîneurs sur le banc qui vont placer les joueurs. Et un lanceur qui a un mauvais IQ a sûrement un bon receveur. Tu sais, un Benji Molina ou n'importe quel Molina, là, parce qu'il en a comme 8, là, va contrôler son lanceur qui même s'il n'a pas un bon IQ, c'est comme, viens ici, suis-moi.
Oui, puis effectivement. Puis si à un moment donné, il n'a pas un bon IQ puis il ne performe pas à cause de ça, on en prend un autre. Là. C'est pas compliqué. Tandis que nous, de dire que un kid de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 14 ans n'a pas un bon baseball IQ, c'est OK, c'est correct, je le comprends. Adresse la situation. Tu sais, t'es là pour améliorer le kid. Là. Donc, ça ne fait pas partie des critères de sélection. D'ailleurs, Jeff, j'ai revu ces critères pour pas...
Absolument, absolument.
À notre meeting, notre rencontre d'hier avec les entraîneurs de haut, tout ça, c'est qu'on va établir... Parce qu'un des gros... Un des gros moments désagréables qu'on a dans toute la structure de baseball Québec, c'est au printemps quand les équipes de A se forment. Et là, on reçoit un paquet d'appels de dire « Moi, mon gars, il était retranché, c'est pas honnête. » Puis on comprend tous les sports vivent ça, tous les sports collectifs vivent ça. Mais on n'a pas pris mon gars, j'ai aucune idée pourquoi, blablabla, pourtant il est parmi les meilleurs, etc. Donc, c'est quelque chose qui nous interpelle parce que ça reste que, peu importe la raison, il y a des gens malheureux du processus, on ne se le cachera pas. Donc, c'est un aspect qui nous adresse depuis un bon bout de temps et ça faisait partie un peu de la réunion d'hier. Ce que maintenant, c'est que tous les camps d'entraînement 2A dans le 15U, puis on va possiblement le faire au niveau 13U aussi cette année, c'est qu'on veut absolument avoir des critères de sélection, une feuille que tous nos parents vont recevoir à la fin du camp pour dire voici les raisons pour lesquelles on a gardé votre fils ou qu'on n'a pas pu le garder ou ce qu'on va justement évaluer la force du lancer, vélocité du lancer, la force de frappe ainsi que la course pour être capable de ranker, de classer un peu le joueur dans ceux qui étaient au camp d'entraînement, puis etc. Tu sais, un bel exemple de ça, Jeff, l'année dernière, il y a une dame qui m'appelle puis qui me demande OK, mon fils n'a pas été retenu à l'ABC, c'est correct, tout ça. C'est quoi qu'est-ce qui lui manque? Fait que là, en regardant les chiffres qu'on avait sur lui, ben j'étais capable de voir qu'il lançait avec un élan à 79 000 à l'heure. La moyenne du média 3, du 7U3A à ce moment-là, était 79. Donc, OK, le même chiffre. Il courait à telle vitesse, un peu plus lent que la moyenne dans le 17 ans 3A. Puis au niveau de la frappe, il était à 1 000 à l'heure supérieur à la moyenne du 3A. Donc, la conclusion, puis elle-même me l'a dit, elle dit, ça devrait être un joueur moyen dans le 3A. C'est ça, un joueur moyen. Il y a eu une très bonne saison, by the way, mais c'était à l'origine des chiffres qu'on avait avant le début de l'année, avant sa saison 3A. Ça annonçait qu'il serait possiblement un joueur moyen 3A. Parce qu'au final, Jeff, si dans un camp d'entraînement 15U2A ou 13U2A, ben un kid, il est 17e dans la course, il est 12e dans la frappe, puis il est 15e au niveau des lancers, c'est plus dur de dire qu'il est les 11 premiers joueurs.
Oui, puis ça arrive partout, tu sais, on en a déjà parlé de ça, toi puis moi, mais tu sais, souvent, puis ça arrive à tout le monde, puis je pense que c'est juste normal, mais tu sais, on voit nos jeunes ou on voit les jeunes de notre région, mais quand on s'en va à la grandeur du Québec, on réalise que, OK, il y a de la compétition partout, puis il y a des meilleurs, il y a des talents. Ça se peut que tu sois le meilleur de la gang, mais il y a des bonnes chances que tu ne le sois pas. Donc, rendu là, les chiffres que vous avez sont importants.
T'sais. Ben, Jeff, t'as raison. Tu sais, les enjeux dans une équipe provinciale sont encore pires parce qu'on n'a pas de connaissance nécessairement de nos concurrents à l'intérieur même de l'équipe. Tu sais, c'est ça qui est plus difficile. Mais je te dirais que même dans une équipe de A, qui prennent les meilleurs joueurs d'une région, c'est quand même beaucoup d'associations. C'est beaucoup de joueurs A qui ont déjà joué un contre l'autre, qui se connaissent. Fait que là, les joueurs qui sont pris. Fait qu'on pense que en établissant des mesures bien précises dans le camp d'entraînement, qu'on va être capable de remettre. Puis tu sais, si on évalue la défensive et la qualité des mains, ben nos coachs peuvent mettre une note de 1 à 10. On va établir un certain fichier là, qu'on va donner aux coachs qui veulent s'en servir pour établir de 1 à 10 où ça se positionne, puis la note qu'on peut mettre, etc. à l'intérieur du kit. Mais c'est vraiment d'arriver avec des critères. Puis Jeff souligne là, aux gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter plus tard, tu sais, il n'y a pas de... Tous nos coachs suivent des formations. On essaie d'éduquer le plus possible notre population de coachs, puis des armées, tout ça. Puis je vous dirais qu'il n'y a pas un entraîneur là, qui aime retrancher des kids dans une équipe. C'est cet exercice-là, il est horrible pour tous. Nos jeunes coachs à l'ABC présentement le vivent là, avec des joueurs qui sont à l'ABC. Et c'est carrément un mauvais moment, là. Comparez ça à une peine d'amour, comparez ça à quand vous avez quitté quelqu'un dans une relation, etc., ou vous êtes fait quitter. C'est un mauvais moment, puis il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Puis c'est un exercice que tout le monde bégait, puis qui n'est pas le fun à faire. Là. Mais c'est sûr que si on a des critères de sélection, on a plus un dossier étoffé pour dire. Voici ce qui a orienté nos décisions comme entraîneur. Ben, ça reste très différent, tu sais. Puis c'est ça. Fait que c'est un peu cette transparence-là qu'on veut emmener. On va continuer à faire des malheureux, Jeff, là, c'est sûr.
Ah oui,
là.
Ben, c'est sûr.
Mais si on est transparent dans ce qui est noté, on est capable qu'à la fin des camps 2A, qu'on soit capable de dire ben, voici les raisons qui nous ont poussés, etc., ben, ça change beaucoup, beaucoup la donne.
Jean-Nicolas Robert demande, est-ce que, là, je suis pas au courant du tout du sujet, là, je sais que toi tu l'es, mais je te pose la question, peut-être que, est-ce qu'on pourrait obliger les sports études à partager leurs data avec les organisations 2A pour aider?
Oui, ça va devenir ça. Ça va devenir que okay. nous présentement, dans la plateforme qu'on va utiliser, là, puis je veux pas trop mélanger les gens, là, mais on veut avoir justement nos joueurs sports études que toutes leurs data soient sur 365 jours. Donc, présentement, la catégorie 15U, on va servir des data justement pour établir le camp d'entraînement puis faire une espèce de classement pour aider les coachs à faire leur équipe. Puis, on va avoir aussi un autre moment où on va sélectionner, qu'on va faire, on va demander les mêmes data dans le coin du, je pense, c'est fin juin ou pas loin de là, je veux pas être embrouillé, on a changé de date quelques fois, mais bref, pour préparer les Jeux du Québec aussi, en fonction de ceux qui s'en viennent, puis etc., faire les formations pour les Jeux du Québec qui vont avoir lieu cet été dans ce groupe d'âge-là, la dernière fois d'ailleurs, après ça, on s'en va dans le 13e à partir de l'année prochaine. Mais bref, donc, on va avoir ces moments-là, puis effectivement, c'est quelque chose que on a une super plateforme là qui s'appelle Rétroaction en passant. Là, c'est vraiment efficace, incroyable. Un groupe de Sherbrooke qui a patenté ça. Là, c'est vraiment cool. Puis ça va permettre justement que ces joueurs-là qui sont dans les deux milieux soient capables d'avoir justement de l'interaction puis qu'on ait données. Puis on se demande, tu sais, présentement, on est dans le. Nos joueurs sport-études, nos coachs sport-études doivent justement établir un bulletin de fin de dernière étape. Puis ils doivent rapporter ces chiffres-là. Fait que là, peut-être qu'au camp d'entraînement, on va être capable de sauver nos équipes 2A en ayant les mêmes chiffres, puis dire OK, ben on va tester les autres, puis ça va aller plus vite pour les camps, etc. Mais on est là-dessus, là.
Absolument. Bonne nouvelle, en fait, parce que si les coachs, les organisations peuvent s'aider, les écoles aussi, tout le monde travaille pour le même objectif, en fait. Tu sais, il n'y a pas de raison nécessairement de cacher les stats à un et l'autre, j'imagine.
Non, c'est ce qu'on veut. Qu'est-ce qui va être le fun aussi sur la plateforme, c'est si le profil de performance de ces joueurs-là va se promener. Par contre, les commentaires individuels par rapport à l'athlète, par rapport à sa discipline, par rapport à son intéressement, son côté coachable, etc., vont rester privés sur les plateformes des équipes. Mais l'espèce de, on appelle ça le rapport de performance, là, à ce moment-là, il va se promener pour qu'on ait justement, à la fin de 3-4 ans, d'avoir une espèce de graphique puis voir que, ben, regarde l'évolution qu'on a, regarde, oh, ça n'a pas monté comme on voulait, etc. On va être capable de recueillir plus de données comme ça aussi puis faire un comparatif. Tu sais, ça reste la fun, JF, quand tu t'évalues, bon, ben, OK, mon fils lance à telle vitesse avec un élan, là, il lance à 75 000 à l'heure dans 15 ans. Ben, ça présente quoi? Ben, la moyenne 2A dans le 15 ans, c'est 7 vitesses. OK, il est dans la moyenne. Ah, je pensais qu'il lançait fort, mais finalement, il est dans la moyenne. Il est au-dessus de la moyenne, bonne nouvelle, là. Donc, c'est beaucoup plus facile de voir un peu où est-ce qu'on se situe au niveau talent, puis où est-ce qu'on est arrivé. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi de ces courbes-là? Ben, c'est, tu vois, c'est autant que l'évaluation d'une journée te donne une photo de l'athlète à ce moment-là, à telle date précise. Tandis que quand on est capable de mettre ça sur un graphique, tu vois l'évolution, ça reste la fun à faire.
Oui, et tu parles de jeunes de 15 ans à 75, je ne sais pas si c'est le vrai chiffre, mais je tiens à lundi, lors du showcase, il y a 16 ans, Elliot Cadieu-Lanou qui a atteint 92 devant les recruteurs à 16 ans, ça c'est assez exceptionnel.
Oui, puis je veux dire, on a eu des très bons scores, là, by the way, bravo Central de l'ABC, là, je pense que il y a plusieurs joueurs qui ont flashé, puis il y a eu des joueurs aussi qui ont eu des sous-performances un peu, puis ça fait partie un peu, Jeff, sur le but, tu étais sur place, on a commencé de plus en plus à amener notre équipe de soutien intégré, nos préparateurs mentaux qui n'ont pas pu, à cause du COVID, travailler autant que nos joueurs, mais normalement, dans tout l'environnement ABC, on voudrait que chacun de nos joueurs ait un préparateur mental qui donne un coup de main. Puis des fois, dans un événement de même, c'est juste de dire une phrase, des fois une phrase clé qui ramène le joueur un peu à l'ordre, ou ça peut être par notre coach aussi, évidemment. Mais il y en a qui vivaient cet événement-là pour la première fois, puis qui étaient comme très nerveux. Dans le cas d'Eliott, ben, il l'a vécu plusieurs fois avec d'autres événements. Donc, ça paraît, il y a une plus grande essence. Mais c'est pas facile, JF, là, déjà. Au baseball, la confrontation, quand tu t'en vas au bâton, lanceur, receveur, bâton, tout le monde, le zoom est sur toi. Là, dans un showcase, dans ce genre-là, ben, t'es tout seul. Parce que pendant qu'il lance au receveur, le spot, il est pas sur le receveur, là, il est sur le lanceur. Là. Quand tu t'en vas te présenter au bâton, puis tout le monde te regarde, puis ils ont le cahier de notes devant, tu peux pas, il regarde pas ailleurs, là, c'est toi qui zoomé. Donc, c'est des expériences super, le fun, des belles opportunités, puis ça fait partie un peu de... Du profil du joueur d'essayer de bien performer. Puis, tu sais, on parlait de variables psychologiques tantôt aussi. Je te dirais que ça, c'est une variable qui est importante, là. Puis, il y en a qui vont être capables de bien performer quand c'est le temps.
Au bon moment.
Ça, c'est toujours le fun. Puis, des fois, on entend ça, JF, de dire tu sais, mon enfant, quand l'enjeu il est grand, il se démarque. C'est une bonne nouvelle. Mais à un moment donné, il faut être capable de se démarquer souvent. Parce que il y a des camps d'entraînement, il faut faire des équipes que, mais c'est pas une game, ça, c'est un camp d'entraînement. Mais il faut que tu sois bon, faire l'équipe.
Exact.
Ah, oui. Tu te démarques rien quand l'enjeu est grand, c'est bonne nouvelle. Mais ça veut dire que tu grandis rien qu'à ce moment-là, tu sais. Fait que celui qui se démarque à toutes les occasions, puis j'irais même te dire, Jeff, que celui qui s'entraîne tout seul, chez lui, puis qui travaille fort, ben, il se démarque là aussi, là. Puis plus tu te démarques souvent, ben plus tu montes, là. Donc, oui, c'est le fun de ceux qui ont shiné cette journée-là. Puis comme tu mentionnais, on a eu des très bons scores, là. Félix Morin qui a frappé, qui a touché 88, puis l'autre qui a touché 88-89. Puis là-dedans, il y a l'évaluation qu'on appelle effortless aussi, de dire OK, mais on a des. Lui, il lance tel vélo. Tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui a lancé 84-85 lors de ce showcase-là, qui est très bon. Mais il a tellement monté que c'était facile tout. Peut-être dans le carnet des recruteurs, ça a été noté plus élevé encore.
Oui, c'est ça, exact.
Tu sais, il y a le mix de dire, OK, tu parlais de plafond tantôt, c'est un peu la job des recruteurs professionnels comme Alex Agostino des Falaises, d'être capable de voir une vitesse sur un radar que moi, plutôt, on est capable de marquer, puis que je reviens avec ma mère qui est capable de dire, c'est vite ça. T'sais, mais là, c'est d'établir une projection avec toutes les autres 88, 90 dans le monde, là, de dire, OK, ben là, on est tout avancé. Ben, c'est sûr qu'en général, là, quand tu vas avoir l'attention d'un dépisteur, JF, là, quand tu l'appelles, là, il y a toujours la bonne vieille phrase de dire, hey, j'ai un gaucher qui lance 90, pouvez-vous me rappeler à tel numéro 10 minutes après le téléphone sort.
Ah ouais, clairement.
Ça, ça manque pas, ça.
C'est un peu, j'ai dévié un peu de d'où t'allais, mais c'est un peu pour dire à quel point, les plafonds et les potentiels selon les âges, c'est tellement variable que c'est pas facile d'évaluer ça. T'sais, c'est sûr que c'est facile à 15-16 ans de voir un jeune comme Elliott qui lance du 92, puis à 15 ans, il lançait sûrement 85 au moins, là, j'imagine. Mais tandis que tu as d'autres jeunes qui ont un potentiel de se rendre quelque part aussi, mais qui vont le lancer peut-être 75 à l'heure actuelle. T'sais. C'est tellement variable que c'est pas facile comme tâche d'évaluer et de sélectionner des jeunes.
Non, puis on a un kid, on a une belle histoire à présenter, Alexander Bobersback, qui est un kid de vingtaine d'années, je pense, présentement, 19-20, là, je ne me trompe pas. Là. Puis lui, on l'avait remarqué à la classique Claude Raymond à 15 ans, il y a quelques années, où j'avais été revoir mon évaluation de lui, puis c'était, il lançait à ce moment-là 72-73, là, qui était une vitesse comme correcte, là, parmi les popées de l'événement, là, même 74, je pense. Mais son bras était tellement beau, Jeff, j'avais les mêmes vitesses, donc il passait toujours au même endroit. Son bras était ce qu'on appelle clean, je sais pas comment. Il y avait un beau bras, disons, que c'était pas d'effort, on disait qu'il fournissait rien. C'était comme, oh wow, OK, j'ai hâte qu'il joue l'année prochaine à un niveau 17U3A, puis ça va être la fun, tout ça. Puis il s'est cassé le bras cette année-là, puis bref, ça a tout retardé sa progression au baseball. Puis là, il s'est pointé, on l'a vu cette année dans un showcase ouvert de l'ABC, il est venu faire un tour, il a grandi, il est 6-3, je pense, etc. Puis là, je pense qu'il a atteint 88-89 lors de cet événement-là. Puis là, il y a un profil vers les collèges américains, puis c'est super intéressant. Donc, on a des belles histoires aussi comme ça. Puis tu vois, il est plus vieux que les autres, tu sais.
Ouais, il va avoir 19 ans, en fait, là, le mois prochain.
Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour te dire que ça reste qu'il y a du développement tardif. C'est sûr que je répète encore, les opportunités dans le baseball se redressent avec l'équipe nationale canadienne, Team Canada qui est 18 ans et moins, les collèges américains, on repêche vers les 17-18 ans, c'est là qu'il y a de l'intérêt pour avoir des bourses d'études. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas 19 aussi, mais c'est là qu'il y a plus d'intérêt un peu. Les équipes du baseball pro, ben, c'est quand tu as fini ton high school, tu as fini ton secondaire. Donc, nous, francophones, c'est 17 ans.
Ouais.
Que c'est sûr qu'il faut qu'on s'organise. Puis c'est pour ça qu'on a un impact beaucoup plus grand sur les 15 ans, LGF, dans toute notre structure présentement, parce qu'on veut tellement améliorer, ratisser le plus large possible pour améliorer nos 15 ans, qui arrivent à 16, 17, qui flashent, puis qu'il y ait ces opportunités-là tout de suite. T'sais, l'exemple d'Alexander est très bon, mais il a manqué plusieurs des belles opportunités à cause de sa blessure. Puis ça aurait pu être simplement que si on ne l'avait pas réussi, il y a d'autres kids qu'on n'a peut-être pas réussi à mettre dans des conditions aussi gagnantes qui arrivent à 19 ans très bons, mais ils ont quand même manqué des rendez-vous. Fait que c'est sûr qu'on a plus intérêt à trouver le moyen de les rendre meilleurs quand c'est le temps de devenir meilleur. Puis ça reste que la poussée, c'est la fameuse poussée de croissance qui va dicter tout ça. Puis en Amérique du Nord, ça se passe à 14 ans.3. Donc, fait qu'on est dans la 15e année à peu près. Donc, c'est là qu'il faut commencer à dire, OK, on met des conditions favorables au développement du talent dans cette bracket d'âge-là parce qu'on est en poussée de croissance. Le système, la plasticité du cerveau peut absorber beaucoup, beaucoup de données et d'apprentissage. Il faut en profiter au maximum.
Parlant d'absorber, Sylvain, j'ai absorbé chaque mot aujourd'hui que tu as dit. On a dépassé de quelques minutes, mais on est vendredi. On est un peu lousse, là. Sylvain, je te souhaite une belle fin de semaine, une belle semaine de tempête de neige. Ça n'a pas commencé ici, mais j'imagine que...
Non, ça va être moins pire à Montréal, là, supposément. Là. J'ai regardé ça tantôt, puis ça a l'air plus smooth. Nos amis de Québec vont y goûter encore, je pense.
Ouais, c'est ça. Donc, bon week-end à tout le monde. Soyez prudents avec cette neige. Probablement la dernière avant que le gazon se monte le bout du nez. Ouais, on va se croiser les doigts.
Ouais,
merci Sylvain, on se revoit
merci
bientôt. Jeff. Merci tout le monde, salut.
Membre de la famille H2O Web Media.